Merci, mon général. Nous passons sans tarder aux questions et réponses. Je vous demanderai de bien vouloir fermer vos téléphones ou les mettre sur vibreur. Et à toutes les personnes qui vont prendre la parole, veuillez vous présenter ainsi que l'organe de presse que vous représentez. Nous prenons la première question avec Goma. Première question, Goma, s'il vous plaît.
Goma.
Je suis Denise Zem, professeur de la radio Papi. J'ai des questions. La première, ça s'adresse au porte-parole militaire, le colonel Bass. Une grande équipe de 35 personnes se joint à Goma et vient investiguer sur la modalité d'envoi des drones. Qu'est-ce que vous connaissez de la nature de leur travail? Cela est-il un coup imminent sur l'arrivée de 10 drones? Et ma deuxième question, je la pose au porte-parole civil. Vous l'avez bien dit, la cité de Némine me semble être aujourd'hui le prochain foyer d'une guerre ethnique entre le Hutu et le Nandi. Cela subsiste, comme vous le savez, par des affrontements récurrents entre les combattants Mai Mai, MPA, et comme il y a une position même de la MONUSCO à Niamey-Lima. Qu'est-ce que la MONUSCO pour éviter l'exacerbation de la crise qui pourrait aboutir à un bain de sang? Voilà.
Merci beaucoup. Je vais prendre les deux questions, si vous permettez. Concernant la première question, l'équipe dont vous parlez ne sont pas venus pour investiguer. Comme vous le savez, les Nations Unies n'ont pas de moyens propres le plus souvent. En ce qui concerne les drones, le Conseil de sécurité a déjà accepté le principe de les déployer sur la frontière est de la République démocratique du Congo. L'équipe que vous avez vue est composée de représentants de sociétés privées et d'État qui possèdent ces drones. Donc, ce seront, lorsque l'appel d'offres sera lancé, ce seront ces personnes ou ces États qui vont y répondre pour faire des propositions aux Nations Unies. Donc, l'équipe est venue pour voir les conditions de travail de ces drones, là où ces drones seront déployés, afin que le moment venu, ils répondent à l'appel d'offres. Concernant la deuxième question, je pense que vous avez tout à fait raison. Nous venons de parler tout de suite de la réconciliation communautaire qui vient d'avoir lieu à Dongo. Depuis environ 3 ans, les affaires civiles de la MONUSCO travaillent sur un programme de réconciliation communautaire. Ce travail a abouti, par exemple, à une cartographie des conflits en République démocratique du Congo. Des conflits qui sont divisés en deux groupes, des conflits armés et des conflits communautaires. Dans le cas que vous venez de citer, il s'agit d'un conflit communautaire, malheureusement greffé aussi sur un conflit armé. En ce qui nous concerne, bien entendu, comme je vous l'ai dit, nous avons les affaires civiles qui travaillent sur la réconciliation communautaire. Je pense que c'est ce que nous allons continuer à faire, travailler avec les communautés afin de les réconcilier, mais il faut aussi que ces communautés mettent fin à l'utilisation des armes et nous allons les encourager dans ce sens. Prenons une deuxième question.
Oui, merci. C'est Thierry Wundi de la RTC Goma et Mediatour, un journal paraissant à Bukavu. Vous avez bien dit que les SRDC sont retournés à Niamey-Lima après la chute de, ou après le départ de MPA. C'est-à-dire que la MONUSCO est aussi revenue officiellement à Niamey-Lima parce que la MONUSCO appuie les SRDC dans la restauration de l'État. Et une autre question, c'est par rapport à la dernière déclaration de Ban Ki-moon qui reconnaît que la chute de Goma du 20 novembre dernier était appuyée par des États qu'il n'a pas cités. Et Ban Ki-moon qui invite plus ou moins 10 États à signer l'accord du 24 février. Peut-on aboutir réellement à cet accord cadre au moment où Ban Ki-moon ne cite pas les pays qui ont appuyé l'M23 lors de la chute de Goma?
Je prends la dernière question et le colonel va répondre à votre première question. Dans ce que le secrétaire général a dit, il n'y a rien de nouveau. Il y a bien longtemps que les Nations Unies ont dit que le M23 était appuyé de l'extérieur. Par conséquent, il n'y a rien de nouveau. En ce qui concerne l'accord cadre, après avoir été reporté une fois, une date a déjà été donnée. Ce dimanche, le 24 février, l'accord devra être signé à Addis Abeba.
Merci pour votre question. Juste pour répondre que la MINUSCO n'a jamais quitté Namibie parce que nous avons une base opérationnelle là-bas. Mais si vous vous rappelez, depuis le 20, il y a eu un premier clash entre le MPA Niapura et les éléments de cette année. Ensuite, il y a eu un deuxième clash le 22 janvier. Et suite à cela, des réconciliations avaient été initiées pour essayer d'aplanir les divergences entre ces deux armées qui veulent contrôler la cité de Namibie. Effectivement, suite aux derniers accrochages qui ont eu lieu pendant le week-end, effectivement, les Maoïs cette année avaient réussi à chasser les Niapura de Namibie. Et après, à partir du 18, ça c'était le 17. Et les 18 des FRDC se sont déployés et ont occupé Namibie. Mais pendant tout le temps où ces clashs ont eu lieu entre ces deux grosses armées, la MINUSCO n'a jamais quitté Niamey, n'a jamais cessé de mener sa mission donnée par le mandat qui est de protéger les populations civiles. C'est d'ailleurs à ce titre que, sitôt que les combats ont été lancés, nous avons déployé une patrouille robuste qui avait pour mission essentielle d'assurer la protection des populations civiles. Donc, en résumé, c'est pour vous dire que nous sommes là, nous demeurons là et nous continuons à mener notre mission qui est de protéger les populations civiles.
Merci. Nous venons à Kinshasa. Nous prenons la première question, RTMC. Passez du coup à RTMC, s'il vous plaît.
Merci, c'est Renard, je dis ça pour la RTMC, vous l'avez déjà dit. Ma première question s'adresse à M. Mouloubaï. Le premier ministre congolais, Matata Ponyo, a rencontré M. Ban Ki-moon il y a cela une dizaine de jours passés. Et compte tenu de son investissement pour cette situation, il a arraché les accords cadres, c'est-à-dire le secrétaire général va procéder à la signature des accords cadres, donc imposant à tout ce pays de signer. Ce que je me pose comme ma question, est-ce que bien avant, il y avait cette volonté et n'était la détermination du Premier ministre à rencontrer le secrétaire général? Y aurait-il cet accord de signature qui se passera le 24? Monsieur mon colonel, les Raïa Mutombo qui est SADC ont délogé les Raïa Mutombo qui est de la cité de Pignan dans le Maniema. Et nous en sommes tous contents, sans le concours, sinon sans la puissance de la MINUSCO. Et vous savez quand même cette maturité de la FRDC. Et le général venait de faire quand même le bilan de ce qu'a été l'année 2012 pour les activités réalisées par la police, notamment la formation. Et la force de la MINUSCO, qu'est-ce qu'elle a déjà entrepris pour que les FRDC deviennent autonomes comme l'ont fait les autres dans la police? Merci.
Oui, concernant votre première question, le secrétaire général a fait une proposition. Ce n'est pas seulement une seule volonté, c'est-à-dire la volonté de la République démocratique du Congo, mais il s'agissait de 10 volontés, puisqu'on parle de 10 pays. Il faut mettre tous ces 10 pays ensemble. Il faut que ces 10 pays acceptent, 11 pays. Donc, c'est 11 volontés qui étaient concernées. Aujourd'hui, les 11 volontés sont tombées d'accord. C'est ainsi que cet accord va être signé. Mon colonel.
Oui, bien sûr que les FRDC ont reconquis avec succès la cité de Pouina, qui avait été occupée par les Raïa Mutombo pendant plus d'une journée, ce qui vraiment conforte encore l'idée que l'esprit combattant réside parmi les forces gouvernementales. Et ils l'ont fait après avoir déployé un renfort qui venait de Kidou pour dégager les éléments Raïa Mutombo. Concernant maintenant l'appui que nous apportons au FRDC, je pense que tout au long des différentes rencontres que nous avons eues ici, nous avons en long, en large et en travers décliné ici les activités que nous menons au profit des FRDC, notamment la formation, notamment l'appui à la planification pour les opérations, l'appui logistique qui est accordé au FRDC aussi pour les opérations conjointes que nous menons. Et tout jusqu'à présent, même sur le terrain, nous continuons à former les FRDC dans le cadre du plan de défense global de la République démocratique du Congo. Et ça se fait au niveau de toutes les provinces, que ce soit au Sud Kivu ou au Nord Kivu. Donc nous poursuivons cet appui-là, parce qu'il fait partie de notre mandat, et nous continuons à appuyer les FRDC dans tous les domaines, tant qu'ils en formuleront, tant qu'ils en prendront l'initiative, nous continuerons à les soutenir et de manière indéfectible.
Prochaine question.
Merci. Moi, c'est Fabien Sens pour le compte de Planète Télévision. Monsieur le porte-parole, vous venez parler de les rapports que monsieur le représentant doit présenter au fait de l'ONU. Est-ce que vous pouvez nous donner les points clés de ces rapports-là? Deuxième préoccupation en général, les formations de la police. Je ne sais pas. Lorsque vous formez ou la spécialisation des policiers, est-ce que vous donnez aussi les moyens de connaître le matériel spécialisé de cette formation? Merci.
Le rapport, il est déjà officiel, il est sur le site, donc il est public. Tout le monde peut déjà le consulter. Je vous laisse faire l'analyse vous-même et nous pourrons en discuter après que le représentant spécial l'ait présenté au Conseil de sécurité. Mon colonel.
Oui, alors pour répondre à sa question en ce qui concerne, je pense qu'il fait allusion à l'équipement de la PNC en dehors de la formation. Vous avez parfaitement raison. Vous le savez, nous, au niveau de la police des Nations Unies, notre mandat, c'est le renforcement des capacités. Nous ne disposons pas de ressources pour équiper. Par contre, nous faisons de la mobilisation des ressources auprès des partenaires pour pouvoir équiper la PNC. Et c'est ce que nous avons fait, si vous vous rappelez, en 2011, quand il y avait la sécurisation du processus électoral. Nous avions à l'époque, sur fonds propres de la MONUSCO, débloqué à peu près 2 millions de dollars qui ont servi à la formation de 6 bataillons d'intervention de la Léni, à peu près 3 000 hommes. À raison de 500 bataillons, 6 bataillons, 3 000 hommes. L'ensemble de ces bataillons ont été équipés, vous l'avez vu, ils continuent à circuler dans des véhicules avec des équipements d'intervention non létaux, c'est-à-dire des casques, des boucliers, des grenades lacrymogènes, ce qui a permis en 2011, lors de la sécurisation du processus électoral, vraiment de minimiser les dégâts au cours des opérations de maintien de l'ordre. Bien sûr, 6 unités, c'est toujours insuffisant, mais nous continuons à mobiliser des ressources auprès des partenaires pour non seulement les former, mais les équiper. Mais je voudrais vous dire dans notre registre, il s'agit aussi de réhabiliter les centres de formation existants. Pour ceux qui connaissent le Bumashi, le centre de Kassapa aujourd'hui était un haut centre de formation de la PNC, exploité par des enfants de la rue. Il n'est plus fonctionnel. Nous sommes en train de mobiliser les Japonais pour pouvoir le réhabiliter, financer la réhabilitation et l'équipement de ce centre. Ce que nous avons fait pour Kassangoulou, pour Kapalata, pour Zimoké, pour Mzinga à Goma et les différents centres dont je vous ai cité, Kananga, à Oulamakadi, dans le Bas-Congo et dans d'autres provinces. Mais encore une fois, le problème c'est qu'au niveau de la PNC, d'après le dernier recensement qui a été fait avec l'appui de l'Union Européenne, on a recensé à peu près 110 000 éléments de la PNC. 110 000 éléments, c'est beaucoup. La plupart de ces éléments, un grand nombre de ces éléments n'ont jamais reçu de formation. C'est des éléments qui ont été intégrés de groupe armé. Il faut les former aux techniques policières, à la déontologie, à l'éthique, au respect des droits de l'homme et aux techniques professionnelles policières. Il faut les équiper, il faut construire des commissariats, il faut leur construire des logements. Nous sommes en train de le faire. Je vous ai parlé de ce que les efforts sont en train d'être faits, particulièrement à l'Est, dans le cadre du programme SAREC, mais à l'Ouest aussi, grâce au soutien de la coopération japonaise, britannique, américaine et autres. Nous sommes en train de faire ce que vous voyez pour les équiper en dehors de la formation.
Merci. Encore une
fois?
Non? Ok. Nous prenons une dernière question sur la droite. Passez le micro.
Oui, c'est Espérant Daniel Kambolo de Digital Congo. La première question, c'est par rapport à la brigade spéciale d'intervention, dont les éléments sont déjà regroupés. Je voudrais savoir, cette brigade qui a déjà des structures spécialisées propres
de qui recevrait-elle l'ordre d'intervention? Est-ce que de la MONUSCO, parce qu'on sous-entend qu'elle serait une partie intégrante de la MONUSCO? La deuxième question, c'est par rapport à la question de l'édition de Vitain. C'est que ces livres, 66 ont été enregistrés la semaine dernière, du 11 au 18. Mais dans l'entretien avec ces Vitain dans le processus de VDR, qu'est-ce qu'ils disent? Veulent-ils intégrer les FADC ou ils veulent opter pour la vie civile? Au général, c'est par rapport à la formation des différents éléments de la police. Le cas, par exemple, des policiers de proximité formés, vous avez parlé de 1250. Est-ce que vous ne trouvez pas que par rapport à la mission entendue de ces éléments-là, le nombre est insuffisant? Est-ce que quand vous recrutez ou quand vous déterminez le nombre de policiers à former, vous entretenez d'abord avec les responsables de la police pour donner les besoins qu'il y a par rapport à la mission entendue de ces éléments-là, ou c'est la MONUSCO qui détermine par rapport à ses moyens financiers ou logistiques?
Merci. Concernant la brigade d'intervention, vous savez que l'accord doit être signé le dimanche prochain, le 24. Un accord est toujours susceptible, donc ça veut dire que le document final n'existe toujours pas. Donc, souffrez que nous ne rentrons pas dans des spéculations, parce que c'est ce que nous ferons aujourd'hui. Attendons que cet accord soit signé. À partir de là, nous pourrons donc en discuter d'une façon intelligente. Concernant ceux qui se rendent, effectivement, nous avons le DDR qui reçoit des personnes qui se rendent d'une façon volontaire. Ce n'est pas forcé, d'une façon volontaire. Et le DDR a un protocole bien en place pour gérer des personnes, des anciens combattants qui se rendent. Ici sont des Congolais, qui sont des étrangers, etc. Ils sont traités suivant ce protocole-là. Vous voulez savoir, justement, c'est difficile de donner une réponse globale parce que chaque catégorie est traitée d'une façon différente. Comment je dirais?
Oui, vous avez parfaitement raison. Les chiffres sont vraiment largement insuffisants. Mais la question qui détermine, mais ça dépend de l'enveloppe financière que le bailleur de fonds met à disposition. Et donc, ainsi que les provinces que nous avons prises sont des provinces pilotes. Pour pouvoir le faire, comme vous avez constaté, Matadi à l'ouest, Kananga disons au centre, au sud, et puis Bukavu à l'est. Mais encore une fois, vous savez, ces formations coûtent extrêmement cher. Pour vous donner une idée, rien que la formation de base financée par la GK, c'est 2 800 000 dollars américains chaque année pour former 1 000 éléments. 1 500 000 à Kapalata, 1 300 000 à Kinshasa, Kasangoulou. Donc pour former pendant 6 mois 1 000 éléments, c'est 2 800 000 dollars chaque année. Parce qu'il faut les nourrir, il faut les entretenir, il faut les soigner pendant 6 mois. Il faut donner les équipements, il faut prendre en charge totalement les stagiaires pour que l'impact de la formation soit bénéfique. Et donc, c'est pour cela que nous travaillons beaucoup pour mobiliser les partenaires, les bailleurs de fonds, plus nous allons disposer de ressources et plus ces formations vont s'élargir. Mais j'estime que déjà des efforts louables sont faits. Maintenant, il faut certainement continuer, mais en aucune façon nous ne nous substituons aux autorités congolaises de la PNC. C'est elles qui définissent dans le cadre de la réforme. Nous ne faisons que appuyer cela. Mais pour une fois, je peux vous dire que vraiment le CSRP, le comité de suivi de la réforme de la PNC, est un modèle de réussite. Ce qui a été fait de façon consensuelle avec la PNC, avec la société civile, avec les partenaires, les bailleurs de fonds, qui sont tous membres de ce CSRP, ça a donné un très bon exemple. Et aujourd'hui, les textes qui ont été faits, que ce soit la loi organique, le statut du policier, et l'ensemble du plan de développement de la PNC, qui a été conçu et préparé, s'il est mis en œuvre, si on dispose du financement pour le mettre en œuvre, on peut espérer à terme d'avoir une PNC républicaine et agissant vraiment conformément aux standards internationaux.
Nous allons passer sur la gauche. Commençons par une dame. Lorette.
C'est le responsable Afrique à télévision. Je pose mes premières questions au général Wafi. Général, vous avez dit tantôt que l'UNPOL soutient la police nationale congolaise. Nous savons que depuis la chute de Goma, la ville de Goma est sous contrôle de la PNC. Et par là, j'aimerais savoir quel est le rôle que joue l'UNPOL sur place actuellement au Nord Kivu. Accompagne-t-elle la PNC dans la situation des civils? Et une autre question, vous avez parlé de la réhabilitation des infrastructures, vous avez parlé des formations au profit de la PNC. Est-ce que l'UNPOL se bat également pour que la police nationale congolaise obtienne un salaire adéquat, un salaire normal régulièrement?